bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.
Bonjour Catherine.
Bonjour Fabrice.
L'émission qui vous met en appétit, qui vous réveille l'envie d'écouter cette émission. Il parle bien sous tout rapport, c'est le mardi entre 11h et midi, à l'heure du déjeuner juste avant, la petite émission qui vous faut pour parler de sexualité, mesdames et messieurs. C'est sans tabou, mais c'est sans vulgarité et ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'écouter sans aucun problème, toujours source d'enrichissement et d'apprentissage et de réflexion surtout. Alors la semaine dernière, on était revenu sur la dernière partie de cette étude qui révélait que les Français faisaient moins l'amour, qu'il y a une récession sexuelle en France. Une des raisons, c'était cette consommation excessive d'écran, que ce soit des séries, que ce soit les jeux vidéo, le smartphone, enfin bref, c'est une grosse raison. Je vous invite à réécouter l'émission en podcast. Et donc on s'est dit, voilà ce qu'il en est aujourd'hui, mais qu'en était-il hier et avant-hier? Et on s'est dit, on va faire une émission sur l'évolution de la perception de la sexualité à travers les grandes époques. Catherine Blanc me disait hors antenne, non mais avec une historienne, ce serait fabuleux, mais on va pas le faire comme ça. On va plutôt le faire avec votre œil à vous, sur un œil psychanalytique, puisqu'on rappelle que vous êtes psychanalyste et sexologue. Est-ce que comme ça, et on va pas mentir aux auditeurs non plus, hein, on n'a pas préparé cette émission, on s'est pas fait des brainstorming pendant plusieurs semaines, on y va un peu, voilà, moi je vais au talent avec Catherine Blanc, on compte vraiment sur elle. Catherine, est-ce que vous notez déjà des grandes périodes et l'évolution un peu d'un côté psychanalytique de la sexualité humaine?
En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la sexualité va inévitablement bouger avec les enjeux relationnels. Donc, on peut comprendre que depuis le début de l'humanité, avec la compréhension de soi qui va évoluer, la conscience de l'autre et de l'apport de l'autre qui va évoluer, par définition, la sexualité va évoluer. Tant que on est des bêtes qui nous sautons dessus, ça va durer un certain temps, mais que petit à petit on va avoir l'intérêt de se lier l'un à l'autre, de s'auto-protéger. Quand on ne comprend pas dans un premier temps que faire l'amour amène à la grossesse, c'est du pulsionnel qui nous y pousse sans qu'on ait la compréhension de ce projet-là, et qu'il va falloir accueillir ça avec ce que ça génère de peur. Qu'est-ce qui se passe dans la femme du point de vue de l'homme et qu'est-ce qui se passe dans la femme du point de vue d'elle-même? Donc sa sexualité, évidemment, va être assez rudimentaire. Elle n'est là qu'à but de fécondation, donc de répondre à la pulsion, c'est-à-dire la fécondation. Et chemin faisant, il va y avoir une sorte de découverte d'une excitation, d'un plaisir plus ou moins fugace, chez l'homme peut-être plus perceptible dans le soulagement de l'éjaculation, chez l'autre un petit peu au petit bonheur la chance, quand ce n'est pas fait avec brutalité ailleurs qui fait qu'on concentre toute sa protection par ailleurs. Donc si je dis par exemple, simplement pour parler des premiers hommes et femmes, on va pendant longtemps être autour de ce lien à l'autre, de l'importance d'être dans le lien à l'autre, de l'importance de s'attacher l'un à l'autre, un pour vérifier qu'il n'est pas en train d'élever un autre enfant que les siens, l'autre pour vérifier que j'attache bien cet homme à moi pour qu'il puisse m'aider à subvenir aux besoins les miens et ceux de mon enfant. Donc évidemment qu'il va y avoir des deals, et des deals qui ne vont pas dans le sens de notre sexualité ou de nos revendications d'aujourd'hui, puisque c'est principalement ces besoins annexes à la sexualité qui font de la sexualité le moyen de cet attachement, le moyen de se démarquer du reste du monde, du reste de la société, et donc bon, pas bon, avoir cette espèce de code au long cours, et notamment au long cours jusqu'au terme de la fertilité. Bien souvent, au terme de la fertilité, se fait le terme de la sexualité. D'ailleurs, je fais un énorme bond dans l'histoire pour venir un peu plus près de notre époque, et peut-être de deux, trois générations avant nous, eh bien, avoir un enfant aux alentours de 40 ans était presque honteux. Ça voulait dire qu'une femme s'adonnait encore à la sexualité à cet âge-là. On avait un enfant tôt dans le mariage, C'était normal, on attendait du mariage qu'il soit fertile. Et ensuite, il n'était pas question de montrer des gros ventres, parce que les gros ventres témoignaient, le bébé était à montrer, mais le gros ventre témoignait d'une activité sexuelle. Et ça n'était pas concevable. Et d'ailleurs, on voit dans l'histoire de la mode, il faudra du temps pour que les ventres soient mis en avant, pour que les robes soient moulées, pour que des femmes mettent en écharpe leur ventre pour plus porté vers du regard de la société sur leur ventre, alors que pendant longtemps ce sera noyé dans les froufrous des robes, dans les plis des manteaux, etc. Donc on voit que la sexualité, elle va être occasion de fertilité et occasion de lien social entre deux individus et de construction sociale. Et puis, petit à petit, chemin faisant, et notamment si on fait... alors, il y a des moments, dans l'histoire, des moments où on met très en avant la sexualité, le 18e est très... très bouillonnant, quand le 19e se fait beaucoup plus austère. Donc on voit qu'il y a des moments comme ça dans l'histoire qui correspond à une histoire, j'allais dire, c'est encore plus large, qui est politique, qui est religieuse. Donc l'implication, le poids d'un regard politique ou le poids d'un regard religieux est considérablement, évidemment, marquer la sexualité de l'individu. Donc maintenant, pour revenir plus près de chez nous, quand arrivent les années 70 avec la dite libération sexuelle, je dis dite parce que c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de l'acter, de le vivre dans son corps, dans sa chair, d'en trouver le chemin. Il y a une revendication de la femme d'existence pleine et entière et librement mouvante dans sa vie. Assez paradoxalement, il y a et on trouve des parallèles avec notre époque actuelle, assez paradoxalement, il y a une revendication de liberté et de liberté d'épanouissement sexuel pour la femme, et en même temps, il y a une sorte de volonté de lisser les spécificités corporelles. Les années 70, il y a une sorte d'unicité de genre qu'il se fait au travers de la mode, notamment les pantalons pas de def qui laissent à penser que les hommes sont un peu en jupe, où les hommes sont très moulés, comme avec les tailles basses pour les hommes et pour les femmes, ce qui fait quand même la spécificité de la femme, c'est justement sa taille marquée, c'est les soutiens-gorge qu'on en voit balader, c'est les hommes qui ont des cheveux longs, c'est les hommes qui portent des trucs à fleurs qu'on assimilait plutôt à des ornements féminins. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de lisser le genre tout en revendiquant une sorte de liberté absolue, liberté d'expérience, d'expérimentation, dans le tout et n'importe quoi, comme toujours dans les expérimentations. Et évidemment, c'est une volonté affirmée qui se cherche et qui se heurte à des difficultés. Et plus on se heurte à des difficultés, plus on va se cogner un peu contre les murs, en quelque sorte. Donc voilà, toutes les années 70, ça va être ça, et ça va être du coup la plainte de la sexualité. En même temps qu'il y a la revendication, il y a la plainte, puisque va naître la sexologie, puisqu'à partir du moment où je suis libre de jouir, on se pose la question de pourquoi je ne jouis pas. Donc évidemment, ça fait un métier qui naît chez les gynécos, principalement d'abord chez les gynécos, et puis après, plus largement, les gynécos et les psys, et puis les généralistes et autres, pour répondre à cette question, puisque les patients dans les cabinets médicaux ou dans les cabinets de psy interrogent cette question du plaisir et cette question de la liberté et de ce que entraîne la liberté, c'est-à-dire toutes les peurs de ce qu'on rencontre sur notre chemin à compter du moment. C'est un petit peu le petit chaperon rouge qui part avec son petit panier, son petit pot de beurre pour traverser le bois. Puis après, il y a la rencontre avec le réel, avec les peurs, avec les incapacités à faire face à ce que je ne maîtrise pas et que je peut-être provoque en moi, provoque chez l'autre, provoque dans la rencontre, etc. Donc, c'est un moment, vous voyez, on tente un élan et en même temps, on est rattrapé par le col de la chemise ou par l'élastique de la culotte, je ne sais. Mais en tout cas, parce que tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre terrorise chez nous. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre époque actuelle. Hein. C'est à la fois une revendication, alors ce n'est pas de la liberté, puisque ça, les femmes l'étaient, la pilule, l'avortement, même s'il est re-questionné, maintenant rentré dans la Constitution, ces libertés étaient quand même acquises, mais c'est une liberté professionnelle, une liberté de pouvoir exprimer, donc prendre le pouvoir, être au pouvoir. Alors, je parle pour nos pays, hein, parce que pour d'autres, c'est simplement enlever un voile. Hein. Mais voilà, pour nous, c'est un peu de cela. Et en même temps, encore une fois, cette balance, comme si on ne pouvait pas arriver dans l'expression pleine et entière et de son épanouissement, de sa jouissance et de son pouvoir, sans j'allais dire, raboter les lignes du corps, comme si les lignes du corps en étaient la raison de l'empêchement d'hier, alors que les lignes du corps ont toute leur place dans leur virilité ou leur féminité au sein du pouvoir, de la jouissance et de la liberté.
Catherine.
J'ai fait très long, pardon.
Quelle envolée.
Oui, pardon.
Non, mais pas de problème, on va marquer une pause néanmoins.
J'ai chaussé mes bottes de 7 lieues, alors je vous ai fait faire des pas de géant, excusez-moi.
Mais non, mais c'est des pas de géant, on adore faire des pas de géant dans la vie, même si à rigueur on arrive plus vite à la destination, alors on profite aussi de la balade, grâce à des pas un peu plus petits, sachez-le Catherine.
Absolument, je vais faire des petits pas.
On marque une pause, on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio.
Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.
On sent que c'est un sujet qui vous passionne quand même, Catherine. Ça tombe bien.
Ah oui, bien sûr que ça me passionne. Bah oui, ça me passionne.
D'où vous vient
ça ? J'aimerais que nos auditeurs soient passionnés. Parce qu'encore une fois, je suis toujours surprise de l'inquiétude que les gens ont à penser, réfléchir, écouter les sujets de la sexualité. Parce qu'en fait, dans leur esprit, ils la réduisent à une histoire où on est tous à poil en train de faire l'amour. Alors que c'est une histoire d'humanité, c'est une histoire socio-culturelle et politique, c'est une histoire, ça rend compte d'un champ de possibles extraordinaire au-delà de ce qui se passera de façon stricto sensu. Dans les corps. Et moi qui suis sexologue, on pourrait penser que toute la journée on me parle pénis ou on me parle vagin pour me et en réalité pas du tout, c'est extrêmement rare que nous abordions de façon aussi directe et réduite le sujet de la sexualité. C'est vraiment un sujet d'humanité incroyable, que j'espère pouvoir communiquer cet enthousiasme.
Alors, voilà, on rappelle que vous êtes dans Bien sous tout rapport et que Catherine Blanc est psychanalyste et sexologue. On a décidé modestement, alors on pourrait faire des émissions, franchement ça pourrait être voilà, c'est sans fin d'ailleurs. Première question, Catherine, vous avez fait 10 minutes, donc c'est sans fin. Et c'est vrai que ça nous intéresse. Mais non, mais c'est sans fin, parce qu'on s'est dit, tiens, on va explorer la sexualité à travers les époques. Bon, bah, vous imaginez bien voilà, mais c'est un peu vaste. On prend ça comme ça vient, comme dirait l'autre. Et on ne peut pas évoquer la sexualité, en tout cas son analyse, sans parler de Sigmund Freud d'ailleurs. Donc si on se projette à la fin du 19e siècle et début du 20e, bon, c'est clé pour lui. Et alors, il a quand même introduit une idée controversée, celle de la sexualité infantile, en suggérant que toutes les sociétés qui encadraient et répondaient aux manifestations de la sexualité dès l'enfance, bon, bah, ça peut avoir des répercussions plus ou moins profondes sur le développement psychique.
Oui, en fait, ce qui est intéressant, alors moi je suis freudienne, donc évidemment, peut-être ai-je un biais. Quand je dis un biais, je ne défends pas la théorie freudienne, c'est que j'ai été formée à la théorie freudienne et je n'ai pas pris le temps, et c'est un tort, de me former à toutes les autres théories. Donc évidemment, même si je m'y suis un peu attardée, je n'ai pas la même connaissance, donc il y a un biais sans doute dans mon discours. Néanmoins, en laissant tomber le discours freudien, moi je m'attache surtout à la clinique. Et la clinique est intéressante à condition d'accepter, ce qui est un exercice pas facile pour le thérapeute, d'accepter de renoncer à ce qu'il a appris et de redécouvrir tous les jours dans son cabinet ce que les patients lui disent et de s'appliquer à analyser et pas à plaquer des théories psychanalytiques, à analyser dans ce qui se dit, se répète, ce qui se tempête, eh bien, et refaire le chemin qu'aurait fait Freud, Jung, Lacan ou autre, c'est refaire ce chemin de compréhension. D'ailleurs, toutes les théories psychanalytiques ne sortent pas d'un cerveau, elles sortent d'une clinique et à mon sens, tout thérapeute, tout doit refaire ce chemin d'écouter ses patients, d'oublier son acquis et sa compréhension intellectuelle pour ne pas plaquer pas plus ses propres histoires et sa propre perception de la sexualité sur son patient, et bien de même, pas son enseignement sur son patient. Et ce faisant, ce que l'on observe en effet, que je ne peux que confirmer dans mon observation clinique, c'est que dès lors qu'un enfant est sollicité dans sa sexualité, parce que l'éveil de la sexualité se fait très tôt dans l'histoire de l'individu, elle se fait aux environs de 2 ans et demi, 3 ans. Tout le monde peut, c'est pas une théorie psychanalytique, tout le monde peut l'observer chez lui dès lors qu'il a des enfants. Il voit très bien quand l'enfant se sexualise. Il le voit très bien parce que l'enfant se met à parler de sexualité, se met à toucher son corps et notamment son sexe de façon beaucoup plus appuyée, beaucoup plus intéressée, se met à être exhibitionniste, se met à être voyeur, se met à regarder les animaux, identifier des sexes comme ceci et des sexes comme cela, filles, garçons. Et c'est vraiment quelque chose qui anime énormément l'enfant, outre les jeux érotiques d'abord de masturbation ou érotiques entre petits enfants, etc. Donc l'enfant est très très curieux de cela. Sa curiosité fait son expérimentation. Mais ce que l'on observe, c'est quand l'expérimentation de l'enfant rencontre la jouissance de quelqu'un qui est censé être son référentiel protecteur, son cadre, c'est-à-dire sa limite droite et sa limite gauche, en quelque sorte, pour pas qu'il parte n'importe où, et qui lui permet d'intégrer ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire une sorte de juge intérieur qui va arbitrer c'est bien, c'est pas bien, qui est le fruit de l'acquis de la société, de la culture, etc. Donc évidemment que nous apportons j'allais dire une contrainte, et c'est la contrainte qui fait aussi ce que sera demain la liberté, puisque s'il y a zéro contrainte, l'enfant est dans une sorte de peur de l'abysse que représentent les possibles démultipliés en quelque sorte. Donc, quand l'enfant, lui, est dans son expérimentation de son corps, expérimentation de sa séduction, expérimentation de jouer au grand ou à la grande, dans le rapport avec les grands, justement, pour voir ce qui sera son avenir, il est en train d'évaluer ce que sera son demain. Et il a besoin du temps de cette évaluation pour que son demain soit riche. À partir du moment où on répond, au moment où il évalue, eh bien, on lui ferme la possibilité de l'enrichir. Donc, je ne parle même pas de culpabilité, je ne parle même pas de désordre psychique. Là, je parle simplement de ce que cela permet au niveau d'ouverture et intellectuelle et psychique des possibles de l'enfant. Et ça, c'est extrêmement important parce que, justement, si vous regardez par exemple les bonobos, qui sont nos plus proches cousins, eh bien, quand ils ont 18 mois, eh bien, eux, ils ont et la pulsion et la fonction et ils peuvent se reproduire. Et ça reste une communauté très intelligente, bien sûr. Mais nous avons, entre le moment de la découverte de notre génitalité, de notre pulsion sexuelle et le moment de la capacité dans notre corps, ne serait-ce que biologiquement, par la montée de nos hormones et donc notre puberté, ce temps qui est très long est un temps de frustration, est un temps du coup de questionnement, et ça fait la grande richesse et l'intelligence de l'être humain. Donc c'est extrêmement dommage et dommageable de freiner, de réduire le champ de cette possibilité de questionnement qui naît de la frustration de ne pas rencontrer à l'éveil de la pulsion la possibilité de la sexualité dans toute son acceptation.
Eh bien, dis donc, Catherine Blanc, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, vous me bluffez à chaque fois. Alors, juste peut-être pour terminer, un petit mot sur la Grèce antique, hein, puisqu'on n'a pas exploré toutes les époques, loin de là, mais la Grèce antique...
Ni tous les pays. Oh, mais non, maintenant, vous me faites voyager dans le monde, d'accord.
Voilà, ni tous les pays, ça, ce sera intéressant d'ailleurs. Mais voilà, comme quoi, j'espère qu'on retrouvera cette émission l'année prochaine sur Nutri Radio, parce qu'on n'a pas fini de tout explorer. Et je pense d'ailleurs que ça va évoluer même pendant... Ça évolue là aujourd'hui. On s'est dit l'intelligence artificielle, ça va tout bouleverser. Donc on aura encore beaucoup à dire. Vous serez là l'année prochaine avec nous, Catherine ?
Écoutez, j'y compte bien. J'y compte bien. Je compte garder toute ma passion, mon énergie, voilà, vive pour être là avec vous, bien sûr.
Bien. Alors, juste un mot pour terminer rapide, ou pour nous teaser pour l'émission de la semaine prochaine d'ailleurs, sur la Grèce antique, puisque vous êtes freudienne, vous l'avez dit. Donc, on sait que Freud et d'autres psychanalystes se sont souvent référés à cette mythologie, aux pratiques sociales de la Grèce antique pour explorer des concepts psychanalytiques, comme le complexe d'Œdipe, par exemple, mm-hmm. Qui s'inspire de la tragédie grecque.
Mm-hmm. Enfin, c'est pas le complexe d'Œdipe qui s'inspire de la tragédie grecque, c'est la tragédie grecque qui témoigne du complexe d'Œdipe.
Oui.
C'est une illustration au travers justement de cette mythologie qui est en fait l'expression de ce qui est dans l'humain. C'est pas une invention et tout d'un coup c'est le psychisme qui s'y colle, c'est l'inverse.
Oui, et alors ce complexe d'Œdipe.
L'homme crée parce que l'homme l'a en lui. Voilà, c'est dans ce sens.
Ok, d'accord, évidemment. Donc aujourd'hui, ce complexe d'Œdipe, c'est quelque chose auquel vous vous référez aussi pendant les séances, qui est encore bien présent.
Bah, moi, je me encore une fois, moi, je me réfère à rien. En fait, je lâche tout et j'écoute quand on me parle de rien qui concerne une relation, enfin un truc qui de près ou de loin a des allures de relation œdipienne ou de fantasme œdipien, ben, je n'en parle pas. Je ne viens pas avec les grosses valises psychanalytiques. Mais il se trouve quand même que force est de constater que ça débarque de temps en temps et que ça encombre de temps en temps et que quand on y met des mots, ben, ça libère et ça permet aux gens de passer à autre chose. Mais encore une fois, observez, et quand je dis observez vos enfants, les uns et les autres qui nous écoutez, observez-les, vous raconter, vous séduire, dire, enfin, moi, je me souviens d'un petit garçon qui, la maman lui avait dit qu'elle allait faire un petit frère ou une petite sœur avec son papa, et le papa voyageait beaucoup à l'étranger. Et un jour, le petit garçon rentre dans la chambre de sa maman un soir, et puis il s'était déguisé en cow-boy, et il arrive et il dit, est-ce que papa, il a déjà mis la petite graine pour le petit garçon, pour le petit frère ou la petite sœur. Et donc il lui dit non, pas encore. Pourquoi? Et là il prend son revolver et il fait, vous savez, au cow-boy comme ça, il prend une allure un petit peu mec comme ça. Ben en sortant son revolver de son fourreau, il dit, parce que moi, elle est prête.
D'accord, ok.
Donc c'est joli parce que ça, c'est pas une invention de psy. Ça, c'est un enfant qui rentre dans la chambre de sa mère et qui lui dit ça. Point. Et donc il y a qu'à écouter nos enfants. Enfin, parfois c'est aussi clair que cela, parfois c'est beaucoup plus sibyllin, mais évidemment que il y a quelque chose de l'ordre de l'élaboration d'un demain. Ce n'est pas pour un aujourd'hui. C'est pas j'ai l'intention d'épouser mon père ou ma mère et bien sûr que non, c'est pas de ça. C'est une, comme quand les enfants jouent au docteur, quand les enfants jouent à papa et maman, ils apprennent ce qu'ils vont pouvoir faire, ils expérimentent le futur. Quand une petite fille, elle sort de table en trombe pour dire « Non, non, il faut vite que j'y aille », alors qu'on lui dit de rester à table parce que c'est l'heure de manger, mais parce que son bébé, à elle, elle doit le coucher, c'est son heure. Ben, elle joue très sérieusement à la maman de son poupon.
Ben oui,
elle travaille son avenir. Et donc, évidemment que dans cette histoire œdipienne, il y a une projection de moi demain, maman, c'est quoi? Eh bien, ça passe par ce papa-là. Et dans mon esprit, et c'est avec ce papa-là que je l'expérimente dans mes liens d'amour pour lui, parce que honnêtement, si on faisait un casting de nos parents, sommes-nous toujours sûrs de choisir ces parents-là? Mais on les aime profondément parce que c'est auprès d'eux que nous construisons nos premiers élans, nous recevons nos premiers amours et nous expérimentons les liens d'amour au sens large et teintés de désirs sexuels parce que ma sexualité à un moment donné s'éveille Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la perversité au sens d'une application et que, franchement, est-ce que moi, j'ai pu échapper à cette règle-là ben, la réponse est non. Voilà, non. On est tous un petit peu avec tout ça. Et si on ne cherche pas à faire la peau aux théories psychanalytiques, parce que je crois que c'est ça l'erreur, c'est qu'on veut faire la peau à des théories comme si les théories nous contraignaient, comme on voudrait faire la peau aux marchands de jouets qui ont peint des jouets en rose ou des jouets en bleu, ou la peau à la religion qui a dit que une femme avait un devoir et l'homme un autre, ou je ne sais quoi. Arrêtons de faire la peau à ce qui est à l'extérieur, écoutons ce que nous sommes en train de construire. Alors bien sûr, on pourrait me répondre, mais êtes-vous sûr que vous construisez des choses ou est-ce que vous n'êtes qu'en écho avec un extérieur ? Eh bien, effectivement, je suis aussi en écho avec un extérieur, mais c'est donc que je veux communiquer avec cet extérieur et que cet extérieur me parle et raconte des choses de moi. Sinon, ça ne marche pas.
Eh bien, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et ces partages. C'est chaque semaine sur Nutri Radio, juste avant le déjeuner. Maintenant que vous êtes en appétit, mesdames, messieurs, on va se retrouver la semaine prochaine. Bon, vous restez avec nous, évidemment, sur Nutri Radio. Cette émission, dans son intégralité, c'est sur nutriradio.fr dans la partie podcast à partir de 18h ce dimanche. Au revoir, Catherine.
Au revoir Fabrice, passez une très bonne journée.
C'est le retour de la musique tout de suite.
Bonne journée.
Oui, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.